Oh oui, Seigneur, nous te remercions. Te remercions pour ce temps à la conférence. Seigneur, merci parce que nous pouvons être là ce soir. Oh, nous prions que tu continues de nous ouvrir ta parole, Seigneur. Que tu nous parles, Seigneur. Oh, Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre, Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Nous louons le Seigneur pour ce temps. Oui, nous le louons pour la grâce qu'il nous donne dans sa parole, puisqu'on peut rentrer dans sa parole. Oui, rentrer et chercher son désir, son fardeau, et qu'ensemble on puisse découvrir cela et s'y attacher fermement. On veut aller un peu plus loin ce soir. Je pense qu'il y a encore des choses à dire dans le chapitre 2, mais on ne veut pas qu'à la fin de cette conférence, on ne veut pas s'arrêter de parler de Philippiens. Donc c'est certain qu'il y a encore d'autres occasions d'en parler. Mais voulons entendre ce fardeau, ce désir du Seigneur, et nous vraiment entrer dans cette parole, dans l'unité, pour maintenir cette unité, pour saisir cette unité en Christ. Oh, que le Seigneur nous soit miséricordieux. Et il est miséricordieux quand on vient à lui, on court vers lui. Et dans Philippiens, il est dit, verset 1, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Oui, juste avant, il y avait quelque chose à juger. Juger une maladie, une faiblesse du frère dans les versets précédents. Mais là, ici, au premier verset du chapitre 3, Paul dit, réjouissez-vous. Et il nous encourage encore aujourd'hui, le Seigneur, à nous réjouir. C'est toujours surprenant, comme le Seigneur comment le Paul a dit aux frères et sœurs, réjouissez-vous. Comment on peut donner un ordre, se réjouir, presser un bouton pour allumer la joie. Mais c'est pas juste une joie, c'est pas juste une émotion qu'on essaie de créer ou d'avoir, d'obtenir. Mais c'est vraiment quand on se dirige, on se porte vers le Seigneur. Et si on regarde à lui, alors c'est là qu'on est encouragé. Et oui, il y a des situations qui sont différentes. Chacun a des situations, mais le Seigneur est toujours si près. Et il dit, il continue dans le verset 1, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire, ou c'est une protection en allemand. » Là, il le répète, il dit, « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. » Est-ce que ce soir, il faut que je redise les mêmes choses? Il dit ici, Paul, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Parce que pour vous, cela est une protection, c'est le salut. Et je pense que ce doit être aussi notre attitude. Seigneur, redis-moi encore une fois les mêmes choses. Il y a des choses qu'on sait déjà, même peut-être qu'il y a des choses qu'on a déjà saisies, peut-être qu'il y en a qui sont déjà dans notre pratique quotidienne. Mais ici, Paul dit de vous dire encore une fois les mêmes choses, cela vous protège, cela est salutaire. Paul avait vraiment ce désir de protéger les frères et sœurs. Il avait un fardeau pour les protéger, de les fortifier, de les rendre fermes dans le Seigneur et rendre ferme ce que le Seigneur, que Christ avait donné. Et c'est en fait ce qu'on entend encore et encore, c'est la parole de la vérité. Dans 2 Timothée 3, verset 14, 2 Timothée 3, verset 14. Il est dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Oui, il y avait à cette époque des personnes qui était en opposition avec la parole. Mais là, ici, dans Philippiens et dans Timothée, Paul encourage à rester dans la parole. Reste, demeure dans les choses que tu as apprises. Comment peut-on demeurer, rester dans ces choses? Comment peut-on demeurer dans les choses qu'on a entendues? Rester dans la parole. Demeurer dans ce qu'on a appris. On peut le faire. Et c'est une telle protection. C'est salutaire pour nous tous. Aussi pour les plus jeunes d'entre nous. On a tellement déjà reçu de la parole de notre Seigneur. J'étais aussi à... Certains ont déjà été dans des camps d'été, à la Chouko. Tellement de possibilités d'entendre la parole du Seigneur. Et que dit Paul? Demeure dans cette parole. Pas juste mettre un petit vu et puis dire « Ouais, je sais, je peux déjà l'expliquer, j'ai compris. » Non, mais demeurer dedans. Chaque jour, le saisir, c'est une telle protection pour nous. Et je voudrais vous dire que il faut qu'on rentre dans cet entraînement de voir que cette parole n'est pas juste quelque chose pour notre temps libre ou pour nos vacances. Je pense que il faut vraiment qu'on fasse cette décision, ce choix de rester dans cette parole. Pourquoi ici lisons-nous Philippiens? On aurait pu prendre n'importe quel thème. Il y a des bons thèmes, différents thèmes qu'on aurait pu choisir. Mais on a choisi de lire ici Philippiens, la lettre Philippiens, parce qu'on ne veut pas passer à côté de la vérité. Parce qu'on ne veut pas juste rester, demeurer dans les versets, nos versets préférés. Mais on veut, avec le Seigneur et par la direction que donne l'Esprit, rester dans sa parole. Oui, vraiment, prenez cette décision de lire tous les évangiles ou tout le Nouveau Testament. Ou alors même tout l'Ancien Testament ou les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. Prenez cette décision. Oui, demeurez dans les choses que nous avons apprises. Ça paraît peut-être, ça peut sonner tellement simple, mais c'est vraiment un exercice de demeurer dans la parole. Et dans Pierre 1, 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 2 Pierre 1:12. On a besoin de ça, d'être affermis dans la vérité. Mais même là, il y a aussi besoin de rappeler. Et c'est pour ça que l'Esprit peut vraiment nous amener dans toute la vérité, nous rappeler toutes ces choses. Et ensuite, que dit Paul? Je pense qu'il revient dans Philippiens. Ah oui, oui, prenez garde aux chiens. Au verset 2, on est revenu à Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Ouh là là. Là, ça paraît clair là pourquoi il doit autant encourager les frères et sœurs à être protégés, à se protéger dans la parole. Parce que il y avait aussi de mauvais ouvriers. Des ouvriers qui sont détournés et qui veulent attirer les croyants, qui veulent les amener dans des choses religieuses ou à l'extérieur, et qui vraiment y travaillaient. On parle d'ouvriers ici. Est-ce que c'est pas terrible? Des hommes qui ont pour travail de vraiment amener des croyants à la chute. De mauvais ouvriers. Et Paul dit de prendre garde. Et c'est aussi ce qu'ils ont vécu là-bas, à Philippe. Et comme on a déjà entendu, Philippe, c'est la première église en Europe. Première église qui a été en Europe. Dieu a envoyé Paul en Europe. En général, ce qui est arrivé, c'est que souvent, ils ont d'abord parlé aux Juifs et ensuite aux nations. Il y avait toujours quelque chose qui restait de l'ancienne alliance. Vous avez cette tendance à d'abord parler aux Juifs et après aux nations. Mais comme on l'a vu au sujet de Lydie et du geôlier, ils n'étaient pas avec ce background. Ils venaient des nations. Ils n'avaient pas déjà cru au Seigneur, mais ils venaient de loin. Ils ont pu du coup être complètement délivrés de tout lien de religieux pour venir au Seigneur. Mais apparemment, quand même, cette tendance à l'ancienne alliance apparemment est quand même arrivée et revenue dans l'église à Philippe, puisqu'il parle ici des mauvais ouvriers. Oui. Là, je vous donne un exemple. Normalement, on dépasse par la gauche. Ici, dans les routes, on est sur l'autoroute, on dépasse toujours par la gauche. Et si quelqu'un dépasse par la droite, ben, c'est pas habituel et c'est même interdit. Parce qu'on ne fait pas attention, on ne garde pas à droite. Et donc, ça serait dangereux si quelqu'un dépasse par la droite. Et ce que je remarque aussi, c'est que des fois on s'y attend pas dans l'église et il y a quelque chose qui peut nous dépasser par la droite. Des ordinances, des lois et quelqu'un qui vient et qui amène ces lois et qui veut ramener peut-être de nouveaux croyants dans ces ordonnances. Qui veut les pousser à revenir à ces ordonnances de l'ancienne alliance. Je pense qu'il faut qu'on prenne garde à cela aussi. Beaucoup de plus jeunes ont aussi commencé dans la grâce et qui n'ont pas vécu d'anciennes traditions, qui n'ont pas dû quitter ces rituels, traditions religieuses. Par exemple, complètement libres, qui n'ont jamais fêté Noël, des traditions qu'il y a dans le monde ou des traditions religieuses. C'est une grâce de ne pas avoir connu tout ça. Et certains d'entre nous ont dû lutter pour être délivrés de ces traditions. Ils ont dû prendre du temps pour venir aujourd'hui, durant le temps de Noël, à la conférence. Et c'est tellement beau de voir qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de suivre des traditions, mais simplement de vivre Christ. Mais faisons attention à ne pas nous faire doubler par la droite, quelque chose qui nous surprenne par la droite, comme l'image d'autoroute. Je me rappelle aussi que j'étais à l'école, on faisait du bricolage. On faisait des décorations de Noël. Et moi, ma femme, nous n'avons pas acheté des décorations de Noël. Mais tout à coup, quelqu'un nous a amené cette décoration de Noël qui avait été construite à l'école et on ne pouvait rien y faire. Qu'est-ce que tu fais là alors? C'est pas si facile. Et il y a aussi toujours des questions auxquelles on doit répondre. Et c'est aussi une occasion de pouvoir expliquer qu'on n'a pas d'arbre, qu'on ne fait pas ces traditions-là, mais qu'on prend ce Jésus-Christ vivant et que c'est quelque chose de complètement différent à savourer. Et que c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire une fois par année, mais qu'on fait tous les jours, 365 jours par année, et qu'on peut l'invoquer et obtenir la vie éternelle. Et ça, on peut l'expliquer à nos enfants, c'est l'occasion de leur expliquer. Et ne dites pas juste « Oh, ça c'est pas pour nous, Noël c'est pas pour nous, et puis on met ça de côté. » Non, que le Seigneur nous garde. Et c'est juste un exemple là que je vous donne, mais il y a tellement d'autres choses. Oh, que nous ayons des yeux ouverts. Que nous ayons des yeux ouverts pour que même ces choses qu'on a laissées de côté depuis des années, elles ne reviennent pas, en fait, en nous surprenant. Et ici, dans Philippiens, Paul montre quelque chose certainement qu'ils n'avaient encore jamais entendu. Il mentionne cette ancienne alliance. Et il revient sur son état à lui. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Verset 5. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. C'était un vrai Israélien. Hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien. La doctrine et toutes les règles, les traditions, est tellement stricte que c'est comme ça qu'il a été élevé, Paul, dans toutes ces règles strictes de l'ancienne alliance. Et là, ici, Paul leur dit, mais vous voyez, si ces choses-là avaient une valeur, moi, j'aurais toutes les conditions, je remplirais toutes les conditions. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. J'ai renoncé à tout. Dans verset 6, Paul dit encore, quant au zèle, persécuteur de l'Église. Oui. Ici, il y a quelque chose. Ce qu'il a cité avant, ça sonne plutôt bien, pas mal. Ouais, c'est l'ancienne alliance, hein, c'est pas si mal. Ou bien? Non. Mais en tous les cas, cet ancien zèle religieux a amené finalement Paul à persécuter l'Église. Sans connaître Jésus, sans connaître encore le plan de Dieu, il a travaillé contre l'Église. Il a jeté des saints en prison. Il a été un persécuteur de l'Église. Et rejetons un œil sur cette histoire, ce qui s'est passé. Paul, dans Acte 9, il avait ce devoir, il avait donné ce devoir de persécuter l'Église. On lui avait donné tous les pouvoirs pour persécuter les frères et sœurs à Damas. Verset 4 du chapitre 9 d'Actes, il tomba par terre et il entendit soudainement une voix qui lui disait du ciel, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul avait pensé, ouais, je persécute les mauvais chrétiens, les chrétiens qui sont dans l'erreur. Et ici, pourtant, il y a une voix qui lui dit, pourquoi me persécutes-tu, moi? Cette voix venant des cieux. Et puis, alors, il lui répond, verset 5, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'était une grande révélation. Le Seigneur lui a pas dit, tu persécutes mes disciples ici. Non, il lui a dit, je suis celui que tu persécutes. Il lui a en fait montré, ici, c'est mon corps sur terre. Tu persécutes des hommes, mais en réalité, tu persécutes mon corps, le corps de Christ. Et ici, la tête te parle à toi et te parle, Paul. Je suis Jésus que tu persécutes. Ainsi, Paul a appris à connaître Jésus, à rencontrer Jésus. Je pense que c'est un moment très particulier. Il a dû ensuite être conduit, parce qu'il ne voyait plus rien, il a été conduit à Damas. Il voulait en fait ranger. Mais finalement, il voulait mettre de l'ordre à Damas, et en fait finalement, il a été emmené comme en tant qu'aveugle, en étant aveugle à Damas. Il ne voyait plus rien. C'est aussi important de remarquer comment il a été aidé. Il y a un Ananias ensuite. Verset 10. Mais cet Ananias, il a d'abord dû être aidé à son tour. Avant que Ananias aille vers Paul, eh bien, il a eu besoin de quelqu'un d'autre qui vienne avec lui. Parce que il savait que c'était celui, Saul était celui qui persécutait l'Église. Mais le Seigneur le rend prêt et l'envoie. Est-ce que quelqu'un peut lire dans Actes 9, versets 17 et 18 ? Actes 9, versets 17 et 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Louez le Seigneur. Qui a aidé Paul? Qui est Ananias? Personne ne sait vraiment qui est cet Ananias. Apparemment, c'était un croyant. Et assez clairement, il était prêt de suivre le Seigneur, même s'il a posé quand même, il a un peu douté. C'était un frère tout à fait normal. Un frère tout à fait normal. Un frère qui était simplement prêt à agir avec le Seigneur. Et ce frère a amené Paul à la prochaine étape. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Le Seigneur a révélé son Église de manière si merveilleuse à Paul. Premièrement, il lui a dit, tu ne me persécutes pas mes disciples, mais tu me persécutes moi, ton corps. Et ensuite, il lui révèle encore son corps en amenant Ananias qui vient l'aider. Par ce frère qui vient l'aider, il lui a révélé aussi le corps. C'était une révélation aussi que Saul, à l'époque, a reçu de Dieu. Il lui a été révélé Christ, Jésus, celui qu'il persécute, mais pas seulement lui, pas seulement Jésus a été révélé, mais aussi son corps qu'il persécutait. Et comme on l'a déjà lu, j'aimerais mentionner un verset, Christ et l'Église. Ce mystère est grand, je parle de Christ et l'Église, verset dans Éphésiens 5. Donc ça montre ici que le Seigneur s'est révélé à Paul, pas comme juste une personne seule, mais il s'est révélé à Paul comme cette personne, ce corps. Oh Seigneur, c'est ma prière, ça doit être notre prière. Seigneur, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous comme cette personne avec son corps, dans son corps. Et il y a encore un verset dans le résumé, on pourrait lire. Combien le Seigneur chérit de se révéler. Comme on a vu par exemple que la Sulamite était tellement, elle cherchait partout son Seigneur. Elle suivait les traces du Seigneur. Oui, où pouvons-nous en fait connaître ce Seigneur? Le mieux, c'est avec les frères et sœurs, tous ensemble. Dans sa parole, on peut le reconnaître, mais c'est encore plus riche dans la communion avec les frères et sœurs. Parce que ensemble, il y a une gloire qui en jaillit. Et alors là, on connaît un Christ qu'on n'a encore jamais connu seul. J'aimerais encore mentionner un verset qu'on a déjà lu.
der leuchtet plötzlich so auf und wird so ermutigend, so erfrischend und spricht in unsere Situation hinein.
Comme Paul rappelle toujours souvent les mêmes choses pour nous, pour rafraîchir les choses qu'on sait déjà. Peut-être qu'on a été découragé, peut-être que le jour ne s'est pas passé comme on aurait voulu qu'il se passe, peut-être que la semaine ne s'est pas passée comme on le voulait, mais la communion avec les frères et sœurs, c'est toujours si encourageant, si plein de vie. Les réunions sont si encourageantes et si précieuses. Il faut vraiment qu'on chérisse ce que nous avons dans l'Église. Oui, on peut trouver d'autres sources, des livres, différents livres. Il y a même des vidéos sur YouTube qui parlent de la Bible et tellement d'autres sources. Bien sûr, il faut toujours éprouver ces choses-là avant de vraiment les prendre. Mais il y en a quelques-unes de ces choses qui sont bonnes. Mais j'aimerais vous poser une question. Où aimerais-tu aimerais-tu être amené par le Seigneur ? Devant ton ordinateur, devant YouTube, ou dans la communion avec les saints? Où aimerais-tu qu'il t'amène, le Père? Les frères et sœurs sont si précieux. Oui, bien sûr, peut-être que le frère qui est là dans ta communion de maison, il a peut-être des termes ou difficultés à partager un message, mais la communion dans le corps, elle est tellement précieuse. C'est quelque chose de si différent. Oui, comme Ananias, ce n'était pas Gamaliel. Parce que Gamaliel parlait de lui comme étant un des meilleurs enseignants dans la parole. Mais c'est pas le Seigneur n'a pas demandé à Gamaliel d'aider Paul. Il a demandé à Ananias. On voit que cette communion dans l'Église est si précieuse. Et des fois, le Seigneur, il dit, « Toi, il faut que tu lises plus ta parole. » Ou je ne sais pas, il dit tellement de choses. Peut-être des fois, il dit moins. Les frères parlent peut-être moins, mais le Seigneur parle. Parle dans la communion, parle par les frères et sœurs. Et il faut vraiment qu'on cherche cette révélation du Seigneur quand nous venons ensemble, quand nous nous retrouvons ensemble dans les maisons. C'est si beau d'avoir de la communion ensemble, dans l'hôtel, après la réunion. Oui, efforçons-nous de chercher ensemble le Seigneur. Il ne faut pas juste voir qu'il y a un endroit où on vient pour le message, mais vraiment chérissons cette communion dans le corps qui est si précieuse et pas limitée à une salle. Paul a aussi écrit dans Actes 18. Alors, Actes 18. Donc là, il y avait quelqu'un. Pardon, mais le verset, on ne trouve pas. Paul, verset 26. On voit que des frères et sœurs sont venus aider. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Ce couple ont eu de la communion avec ce frère qui était perdu. Il parlait de ce frère aussi dans Actes 18 qui était perdu. Apollos. Ah, pas perdu. Il y avait des questions. Mais là, on voit que Aquilas et Priscille ont de la communion avec ce frère. Ils sont venus aider. Oui, tous ceux qui sont ici depuis plus longtemps, nous avons cette responsabilité de montrer clairement ce chemin. Les parents ont la responsabilité pour leurs enfants de montrer ce chemin, de présenter clairement le chemin du Seigneur. Oui, certains pourront dire, oui, moi, à table, quand on mange, j'ai pas envie de commencer à faire un message. Peut-être qu'après après le repas, on peut rester à table et puis commencer à partager quelque chose aux enfants. Ce que j'aimerais vous dire, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de si long, 30 minutes après le repas, rester. Mais je pense que nous, en tant que parents, si on partage de celui, de nos expériences dans le passé, comment on a marché avec le Seigneur, aujourd'hui, comment on marche avec le Seigneur, c'est tellement un salut. Oui, on peut y réfléchir. Comment j'ai pris le Seigneur? Quand est-ce que je me suis en fait fait baptiser? Quelles circonstances? Et on peut en parler, discuter et avoir de la communion avec nos enfants, avec d'autres frères et sœurs à ce sujet. Et vraiment, la communion dans le corps est si nécessaire. Elle est si importante. Et chacun en profite. Les parents, les enfants, tout le monde en profite. Je pense que ça peut être aussi inversé, que les parents entendent quelque chose de leurs enfants. Oui, je veux. Ils ont plus de temps libre, peut-être plus de réunions. On peut en profiter, nous aussi, les parents, de ça, chez nos enfants. Et c'est si merveilleux. C'est les meilleures expériences quand on partage ainsi. Quand ensemble, on saisit le Christ. Qu'on ne court pas après une théorie. Ah, j'ai pas trop compris ça. Oui, c'est bien si tu as compris quelque chose tout à coup que tu n'avais pas compris avant. Un point théorique. Mais c'est si merveilleux si il y a cette joie qui est œuvrée en nous et qu'on peut la partager dans la communion. Et cela amène à la construction, à l'édification de son Église. Et il faut que je parle un peu plus lentement. Il y a une sœur qui m'a demandé à la traduction. C'était pas moi, hein, si jamais vous vous demandez. Qu'il faut qu'il parle un peu plus lentement, le frère, pour que la traduction puisse suivre. Oui, nous voulons gagner Christ. Oui, on n'arrivera pas à aller passer à travers tous les versets aujourd'hui, mais encore un fardeau que j'ai ici, comment Paul décrit son expérience avec Christ dans Philippiens 3. Il dit qu'il a considéré toute chose comme de la perte afin de gagner Christ. Il y a différentes manières et chemins pour aller de l'avant avec le Seigneur. Parfois, il y a un problème, difficulté, il y a des soucis, une épreuve, un projet où tu dois travailler 3 ans dessus au travail, et puis tout à coup, on le termine. On dit non, stop. Moi, quand j'étais. Le frère avait au travail une telle situation où il avait un projet, beaucoup investi dedans, et tout à coup, son chef a dit non, c'est fini, arrête ça. Et pour moi, c'était pas si facile, enfin pour le frère qui partage. Parce qu'il était investi. Et tout à coup, le chef a dit non, on va recommencer complètement nouvellement. Dans le monde de l'église, il a dit, genre dans le monde de l'entreprise, pardon. Ça fonctionnait parfois comme ça. Il fallait tout recommencer. Et là, c'est une difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand une telle situation se présente à nous? Ces genres de situations nous aident. Mais les choses du monde, elles ont une fin. Et on veut complètement se diriger, regarder à Christ. Oui, j'ai l'impression ici que Paul avait encore un autre chemin face à ces difficultés. Il a eu beaucoup de difficultés, d'échecs, qui l'ont amené. Enfin, c'est comme je le comprends, que c'était un peu systématique pour lui. Et de manière très consciente, il voulait oublier tout ce qui était derrière, comme il le dit dans verset 8. Je regarde toute chose comme une perte. Oui, j'ai eu tout ce que j'ai pu avoir tellement de choses dans le passé, bonnes et mauvaises. Toute chose, je vais les considérer comme une perte, dit Paul ici. Afin, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et consciemment. Et il était conscient de cela. Est-ce qu'on ne veut pas essayer ça? Oui, quand quelque chose va mal, mais pas seulement quand les choses vont mal. Parce que c'est facile d'oublier quelque chose qui ne va pas bien. Mais pour certaines choses, ça va bien. Parfois, ça marche bien. Des travaux, des projets au travail qui vont bien. Ou alors des choses qui fonctionnent bien, des vacances, du sport, des hobbies. Et oui, on peut se dire, ouais, ça se passe bien. Mais j'ai parfois l'impression que on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas tout faire. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire en théorie. Beaucoup d'options. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Et il y a d'autres choses qui sont nécessaires ou qui paraissent nécessaires. Et ces choses prennent notre temps. Elles prennent notre cœur. Et si on demandait au Seigneur, est-ce que je peux limiter quelque chose, une de ces choses, selon ta volonté? Peut-être qu'il me dira, on peut le laisser, on peut. Mais ouais, prions au Seigneur. Seigneur, montre-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux considérer comme de la perte à cause de l'excellence de ta connaissance en tant que mon Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que je peux laisser? Il y a certaines choses, oui, qu'on ne peut pas laisser, bien sûr. On a aussi une vie humaine ici, normale, sur Terre. C'est correct comme cela. Mais, Seigneur, qu'est-ce que je peux regarder comme une perte dans ma vie? Quelles sont les choses que je peux regarder comme une perte à cause de ta connaissance, la connaissance de la connaissance, de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ? Et si c'était très concret pour Paul, il était en prison. À la maison, dans la prison, t'as rien en prison. Tout ce que t'avais à la maison, tu peux rien prendre avec toi. À la prison, t'as plus rien. Parfois, peut-être, il y a juste un frère avec toi dans la prison. Mais que le Seigneur nous donne de la lumière et qu'il nous donne sa grâce pour qu'il nous montre ces choses où on croit, oh, elles sont nécessaires, mais qu'on soit délivré de ces choses qui nous trompent. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 8. J'aimerais vous donner un exemple ce soir, mais en même temps, j'aimerais éviter des exemples, parce que c'est mieux que le Seigneur nous conduise. Et tout ce que je dois renoncer, ce don à quoi je dois renoncer, il faut que le Seigneur me le révèle. Seigneur, il faut qu'il nous montre. Il faut qu'il nous montre, et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut œuvrer en nous ou doit nous expliquer, mais c'est le Seigneur qui nous montre et qui œuvre et qui nous montre, donne révélation sur ces choses qu'il faut laisser de côté, qu'il faut renaisser. Il faut qu'on se laisse diriger par le Seigneur C'est une grâce. Regardons au Seigneur pour cela. Il y a encore des versets dans les évangiles qui nous montrent des choses que les disciples ont dû considérer comme de la perte. Et vous pourrez les lire dans vos temps personnels. Ils sont dans le résumé. Oui, et voulons le connaître. Verset 9. Être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 9. Et verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Ici aussi, c'est vraiment un chemin pour connaître plus Christ. Quand on entre dans l'œuvre qu'il a accomplie, oui, il dit ici qu'il veut expérimenter la force de sa résurrection, la puissance de sa résurrection. Mais comme il dit ici, il y a la puissance de sa résurrection, mais on peut seulement l'expérimenter ici, comme il le dit juste après, d'abord en devenant conforme à sa mort. Au petit déjeuner, on a discuté. Et vous pourrez avoir de la communion durant le demain au petit déjeuner sur ce verset-là. Parce que des fois, on ne sait pas ce qui vient du Seigneur et ce qui n'est pas du Seigneur. Et comme il est dit dans Philippiens, d'un côté, il faut qu'on sache discerner avec sagesse et amour, avec aussi compassion et miséricorde. Mais d'un côté, donc c'est clair. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce chemin par la mort. Voir qu'on a été crucifié avec Christ. Et que ces choses-là ont été terminées à la croix. Mon courage, mon désespoir, mon manque de courage, ma frustration, tout a été crucifié. Mais mon désir de vouloir changer quelque chose s'est crucifié aussi. Tout mon vieil homme en tout entier, dans son entièreté, a été crucifié, terminé à la croix. C'est vraiment une grande libération. Tous nos combats, nos efforts sont terminés dans cette victoire-là, à la croix. Parce qu'on peut témoigner, j'ai été crucifié avec Christ. Je ne dois plus lutter. Je n'ai plus besoin d'essayer de gagner ce combat par ma propre force. Non, au contraire, je gagne par sa mort. Je suis mort. Et alors, il y a un effet merveilleux. C'est la liberté. Non pas seulement la liberté, mais aussi, soudain tu réalises, tu remarques qu'il y a quelque chose d'autre qui vient. Parfois tout de suite, parfois un peu après. Quelque chose qui grandit de Christ. Il y a quelque chose qui ressort, qui apparaît. Quelque chose d'entièrement différent. Parce que c'est Christ qui est révélé par nous, en nous. Christ est rendu grand dans notre vie. Parce qu'on le reconnaît comme celui qui grandit en nous, qui nous donne son chemin tout nouveau pour qu'on y marche. En étant rendu conforme à lui dans sa mort, c'est alors qu'on peut expérimenter la puissance de sa résurrection. C'est des choses à expérimenter dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie de l'Église. On peut tout remettre dans la mort. Ça fonctionne. Essayez-le. On peut tout donner, lâcher dans la mort. Et le Seigneur peut alors œuvrer avancer. Peut-être que le Seigneur te conduit de manière complètement nouvelle ou qu'il continue comme il l'a déjà fait. Mais même, c'est toujours différent parce que c'est plus selon ta propre justice. C'est pas selon les conceptions qu'on a. Oui, je le fais, je me donne des efforts. Non, c'est par la grâce. C'est par la foi. C'est par beaucoup d'assurance. Mais en même temps, avec une grande crainte. Avec une crainte de faire quelque chose par notre propre force. Oui, louez le Seigneur pour sa croix. Sa croix, la puissance, la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. C'est si merveilleux. Et je pense que je veux m'arrêter ici. Ouais. Que tous ensemble maintenant on continue de parler de tout ça et rentrer dans cette expérience, expérimenter la puissance de sa résurrection seulement comment? En étant rendu conforme à sa mort d'abord. J'aimerais encore vous montrer ici, pas m'étendre trop là-dessus, mais ici, Paul parle de cette merveilleuse récompense. Verset 11, si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Il y a quelque chose ici d'un petit peu mystérieux, très mystérieux. Mais ici, on voit que le Seigneur nous a promis qu'on pourrait avoir part à la première résurrection d'entre les morts. Louez le Seigneur.